Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour à toute l'équipe, les voisins. C'est beau que l'émotion évolue en rapport avec l'humanité et son histoire et le miroir du futur. Alors, suivons seulement notre évolution, soyons simplement des voisins. Allez, belle journée à vous et belle émission.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines, suite et fin de notre semaine spéciale. Sommes-nous trop nombreux pour être heureux ? Depuis lundi, on s'est posé des questions graves, parfois inquiétantes. Comment vivre en sécurité à 8 milliards ? Comment vivre dans un habitat décent ? Manger à notre faim ? Aller tous à l'école ? Mais dans cette démographie mondiale, il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer, malgré les incertitudes actuelles. Aujourd'hui, donc, cinquième volet. Sommes-nous trop nombreux pour être heureux ? 8 milliards de voisins, 63% de personnes heureuses dans le monde. Est-ce beaucoup ? Pas assez ? Est-ce que ce chiffre a même une signification sur un sentiment tellement intime. Depuis 2012, en tout cas, un rapport mondial du bonheur est publié par les Nations Unies avec les pays les plus heureux. En tête du classement pour l'année 2022, la Finlande pour la cinquième année consécutive, suivie par le Danemark, l'Islande. Et à l'opposé, sur le continent du malheur, l'Afghanistan et le Liban en dernière position. Mais est-ce qu'il n'y a pas une indécence à célébrer, à calculer un indice du bonheur ? Et quel défi aussi pour être heureux à 8 milliards. On en discutera avec vous, Claudia Sénic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous êtes directrice de l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications. Jean-Christophe Ribaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur et le réalisateur d'un documentaire remarqué qui s'appelle Le business du bonheur et qui est toujours disponible et que je vous conseille, les voisins et les voisines, sur le site de la chaîne de télé Arte. Donc, en deuxième partie d'émission, nous écouterons la sérénité de notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, où le yoga est devenu le produit culturel indien le plus exporté dans le reste du monde pour accéder au bien-être. Et puis en fin d'émission, une série régulière chez 8 milliards, Le monde des enfants par Charlie Dupiot, disponible aussi en podcast. Ils ont 9 ans, 10 ans et dans cette classe de Cotonou aujourd'hui au Bénin, ils dialoguent sur ce sujet fondamental, le bonheur à ne pas manquer.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Bonjour, assalamu alaikum, good morning, buenos dias, 8 milliards de voisins, c'est génial, plus on est nombreux, plus ça ira mieux, merci à tous.
Et tout de suite, nous partons pour l'Islande, les Islandais sont considérés avec leurs voisins nordiques comme les personnes les plus heureuses du monde, derrière donc, je vous le disais, la Finlande, le Danemark, alors quelle est donc la recette du bonheur des Islandais ? Des éléments de réponse avec notre correspondant à Reykjavik. Bonjour Jérémy Richard.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous et merci pour ce bonjour qui respire le bonheur. Mais l'Islande, c'est une île vaste de l'Atlantique Nord et l'environnement est quand même plutôt hostile de prime abord.
Disons qu'on est loin des signes extérieurs de ce que l'on aime appeler un paradis, avec palmiers, plages de sable fin et l'eau d'une mer turquoise transparente sous des températures tropicales. Non, ici, le sable est noir. L'Islande, c'est un désert arctique souvent venteux, l'une des régions volcaniques terrestres les plus actives et productives, drapée de glaciers qui recouvrent 10% de sa surface. Si les plaines sont étonnamment vertes et ensoleillées en été, sans que les températures moyennes ne dépassent toutefois 15 degrés, l'hiver, le mercure est quasi constamment négatif et l'obscurité atteint jusqu'à 20 heures sur 24 à son apogée en plein mois de décembre dans la capitale Reykjavik. Bref, à première vue, pas grand-chose de réjouissant.
Mais alors qu'est-ce qui fait le bien-être des Islandais dans les ténèbres de l'hiver ?
D'abord, la sécurité est un élément essentiel et permet un haut niveau de confiance et de sérénité au sein de la population. Les enfants peuvent aller tout seuls à l'école, à pied ou à vélo dès leur plus jeune âge et jouer librement le soir dans les parcs et sur les terrains de foot sans que leurs parents ne s'inquiètent d'un enlèvement. Ou encore rentrer de soirée tard dans la nuit et marcher seul dans la rue sans risquer de se faire agresser, ce qui est presque un luxe dans bien d'autres villes. Le taux de criminalité en Islande est d'ailleurs parmi les plus faibles au monde. Autre facteur important, c'est la santé. La majorité des citoyens ont accès à des soins de bonne qualité, permettant notamment d'avoir le taux de mortalité infantile le plus bas et l'une des espérances de vie les plus élevées. Et puis bien sûr, même si ça ne fait pas tout, c'est une nation prospère.
Oui, alors l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Est-ce qu'il y a autre chose aussi, de peut-être de plus fondamental, comme les relations sociales ?
Oui, même si l'Islande est le pays le moins densément peuplé d'Europe occidentale, c'est d'ailleurs aussi ce que recherchent les touristes en venant ici, ce sentiment d'être seul au monde dans des paysages grandioses. Et bien malgré cela, c'est assez facile d'être en contact avec sa famille et ses amis dans ce petit pays de 360 000 habitants, où la majorité vivent autour de Reykjavik. L'entraide est ancrée dans la culture locale. Si votre voiture est coincée dans la neige en hiver, quelqu'un s'arrêtera toujours pour vous donner un coup de main. L'environnement pouvant être rude, c'est important pour les Islandais de ne pas rester seuls. Donner la priorité et passer du temps avec sa famille ou ses amis, c'est traditionnel dans la culture nordique. Et généralement, c'est à la piscine que tout se passe, au lieu de socialisation aussi important que les terrasses en France ou les pubs en Angleterre.
Alors, tout n'est pas rose pour autant. Ça peut paraître d'ailleurs contradictoire, Jérémy Richard, puisque les Islandais sont parmi les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde.
Et c'est comme ça depuis plusieurs décennies. En effet, une enquête d'Eurostat en 2019 indique que près de 16% des Islandais déclarent souffrir de dépression chronique, la plus forte part d'Europe. Pas évident de garder le moral après des tempêtes à répétition au cours de l'hiver. Il y a, d'une manière générale, une consommation d'antidépresseurs assez forte dans les pays nordiques, notamment en Suède et en Finlande, qui est pourtant le pays le plus heureux du monde. Une autre explication majeure en Islande à ce qui est parfois appelé une surconsommation, c'est la perception de l'efficacité des antidépresseurs par les utilisateurs, mais aussi un effet de l'accès limité à des traitements alternatifs comme la psychothérapie, assez peu répandu dans la culture du pays.
Ouais, et quand on ne prend pas d'antidépresseurs, on peut se réfugier dans l'écriture, surtout si la nuit est si longue.
Certains psychologues pensent en effet que la littérature, notamment, constitue un tampon dans les moments difficiles. C'est pourquoi l'Islande, où l'on publie plus de livres par habitant que n'importe où ailleurs, a une si riche culture littéraire. La première ministre vient d'ailleurs tout juste de sortir son premier polar le mois dernier, qu'elle a écrit pendant la pandémie de Covid-19. Un exercice qu'elle juge elle-même libérateur.
Merci Jérémy Richard, correspondant à Reykjavik en Islande pour RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Peut-être un mot de réaction, qu'est-ce que ça vous évoque, ce peuple à la fois qui prend des antidépresseurs, chez qui il fait nuit tout le temps, une nature un peu hostile, pas très peuplée, et pourtant qui s'en sort bien sur l'échelle du bonheur. Non, oui. Jean-Christophe Ribaud ?
Ben oui, enfin, je pense que c'est ce contraste entre, je dirais presque cette opposition entre la consommation d'antidépresseurs et les bons résultats dans cette enquête sur les niveaux de bonheur.
Ils sont heureux parce qu'ils prennent des antidépresseurs.
Je veux dire, ce contraste est un peu à l'origine du film qu'on a fait. Nous aussi, on s'est interrogé sur le fait que aujourd'hui, dans le milieu du travail, il y ait autant de burn-out, qu'on parle effectivement aussi de consommation énorme d'antidépresseurs, alors que le mouvement du développement personnel est en plein essor et qu'il y a de plus en plus d'ouvrages qui te donnent des conseils pour être heureux. Donc c'était l'origine même du documentaire que j'ai fait. Donc,
on va bien sûr en parler. Claudia Sénic, finalement, comment expliquer que l'Europe du Nord soit si bien classée sur l'échelle du bonheur ? D'abord l'argent, d'abord le bien-être dans ces pays-là, la bonne organisation ?
Oui, un peu tout ça, mais juste pour répondre. En fait, quand on prend des antidépresseurs, c'est qu'on fait en sorte d'aller bien. Donc, on se soigne parce qu'on se sent mal, on prend les moyens de soigner, d'aller mieux. Et c'est parce que aussi le bonheur ou le bien-être ou le fait d'aller bien est une valeur. C'est même une norme, en fait, dans ces pays. On doit aller bien. Ce sont des pays où il y a une très forte cohésion sociale, un modèle social très, très, très important, qui soutient beaucoup.
Et qu'il n'y a pas de place pour les pessimistes et pour les râleurs dans ces sociétés.
Finalement, on fait tout pour que la société se tienne et arrive bien. Et après, il s'agit de délivrer en quelque sorte. Donc, c'est pas du tout comme en France où en fait on se moque toujours de nous en disant on est heureux d'être malheureux, etc. Là-bas, non, c'est très mal vu. Donc, effectivement, on va prendre les moyens. Donc, c'est un peu la question de la poule et de l'œuf là. Est-ce qu'on est heureux parce qu'on prend des antidépresseurs ou on en prend pour être heureux? Bon, après, on connaît bien le secret de ces pays. C'est effectivement des petits pays très soudés, avec un État-providence très fort, des services sociaux. Enfin, le bien commun, les biens publics sont très développés.
Présence de la nature aussi.
Et puis, moi, je pense, le rapport à la nature, très important, très, très fort.
Il y a des étudiants qui ne râlent pas de faire 30 minutes de marche par moins 5 degrés le matin pour rejoindre leur campus, par exemple.
Oui, oui, oui. Et puis l'importance, bon, l'accent sur l'autonomie individuelle, le fait que les étudiants soient très tôt, enfin, dès qu'ils commencent leurs études supérieures, ils sont financés, ils quittent leur famille, ils deviennent des adultes avec une vie d'adulte. Mmh. Bon, il y a toutes sortes de ces recettes qu'on a vues.
Alors vous qui êtes une professionnelle du bonheur, Claudia Sénic, 8 milliards d'habitants, est-ce que la croissance démographique peut avoir un rapport avec la représentation du bonheur ?
Là, votre question, c'est est-ce qu'on fait des enfants quand on est heureux ?
Bah, les deux, parce qu'en fait, par exemple, là, l'Islande, c'est un pays qui n'est pas très peuplé. Oui. L'Europe du Nord, en général, ce ne sont pas des pays densément peuplés. Est-ce que ça participe à cette notion de bien-être,
hein ? C'est clair qu'aujourd'hui, l'espace est devenu un luxe. Mais en fait, il en fait la démographie comme de tout, c'est qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire qu'au début, une région ou un pays plus peuplé, c'est plus de vie, c'est plus d'animation, c'est plus de contact, c'est bien. Et puis il y a un moment où si on passe à certains seuils, ça devient de la congestion, ça devient des embouteillages, de la concurrence pour l'espace, etc. Et quand on est au-delà de cette limite, ça devient très nuisible. Et donc aujourd'hui, on est au-delà de cette limite. Enfin, on a vraiment l'impression que effectivement, l'espace est un luxe.
Même temps, il y a des pays où on a beaucoup moins d'espace et où il y a davantage de densité de population et où les gens sont, je ne sais pas s'ils se disent heureux, mais en tout cas, ils sont joyeux.
Oui, non, j'ai pas dit que c'était la seule, mais si on s'intéresse à cette question particulière en faisant abstraction de tout le reste, on peut dire qu'aujourd'hui, plus d'espace, plus de nature, ça serait bien.
Ouais. Jean-Christophe Ribaud, est-ce que vous vous interrogez sur ces classements des Nations Unies qui mesurent le bonheur à partir de six variables, en fait, hein, le revenu, donc l'argent, la liberté, la confiance dans le gouvernement, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, on en parlait beaucoup, les politiques sociales qui sont très présentes en Europe du Nord, la générosité. Est-ce que réellement ces indices peuvent nous renseigner sur ce sujet aussi intime ?
Non, je pense pas. Je pense qu'ils nous renseignent surtout sur les valeurs qui sont attribuées au bonheur par les gens qui ont fondé ces sondages, en fait. C'est surtout ça. Alors nous, là, quand vous citez les paramètres qui ont été pris en compte, j'ai envie de dire que pour moi, ils me correspondent. Effectivement, j'ai l'impression que ce que vous citez, s'il y a plus de démocratie, s'il y a plus d'entraide entre les gens, forcément, moi, personnellement, en tant que Français...
Tout le monde dira la même chose.
Je pense pas. Il y a beaucoup de pays, si vous voulez, la notion même de poser la question « Êtes-vous heureux ?», c'est une question qui ne fait pas vraiment sens.
C'est une question typiquement occidentale.
C'est une question qui est devenue très occidentale et surtout en y mettant derrière ces paramètres-là.
Non, en fait, je ne suis pas d'accord parce que c'est pas comme quand autrefois, on construisait des indices de bonheur en décidant soi-même ce qui comptait. Là, c'est vraiment, on pose des questions aux gens et après, on regarde ce que les gens répondent à ces questions, c'est-à-dire est-ce que vous avez quelqu'un sur qui compter, etc. Et on regarde si ces gens-là sont plus ou moins heureux. Donc, en fait, le poids de ces caractéristiques, il est endogène, comme on dirait. On le découvre, on ne l'impose pas, on le découvre. Et sur les pays d'Asie, justement, c'est intéressant parce que dans la dernière mouture de World Happiness Report, donc le rapport sur le bonheur dans le monde dont on parle, ils se sont dit, mais ça se trouve, en fait, dans les pays d'Asie, c'est complètement d'autres valeurs. Et ils ont inclus tout un module dans l'enquête sur l'harmonie, valeurs
qui sont supposées être asiatiques. Ça, c'est pour le Japon, par exemple.
Voilà. Oui. L'harmonie, l'importance du collectif par rapport à l'individuel et des choses comme ça. Et effectivement, on trouve quelques différences, mais pas énormément, en fait, sur la recette.
Sur la recette du bonheur, oui. Moi, je me souviens d'avoir interviewé pour le documentaire un des responsables de cette enquête. Donc, c'est une enquête qui est faite par Gallup, qui est un institut de sondage et qui est aussi très connu pour ses sondages en entreprise sur les forces intérieures. Et de manière assez sincère, il m'a raconté à quel point c'était difficile de traduire simplement le terme même de bonheur, de traduire pour que ça fasse sens chez les gens chez qui il allait faire ses sondages. Et effectivement, ils font ce sondage-là pour les Nations Unies, dans tous les pays du monde. Je crois que c'est 180 pays, enfin, c'est quasiment tous les pays du monde. Et la première grande difficulté, c'est de traduire. Parce que c'est néanmoins une notion qui est à la fois très culturelle, très personnelle, et qui varie à travers les âges, à travers les cultures, à travers notre histoire européenne, par exemple, la notion de bonheur a énormément évolué. La chrétienté, pour la chrétienté, le bonheur, c'est la félicité qui est atteignable uniquement après la mort.
Dans d'autres religions aussi, d'ailleurs.
Bien sûr.
On ne peut pas interroger les gens après la mort.
Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que le bonheur terrestre n'était pas quelque chose à souhaiter. C'était tout simplement pas souhaitable.
Ouais. Les pays de l'Est sont en queue de classement, Claudia Sénic.
Oui, en fait, depuis le début, enfin depuis qu'on les interroge, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, ils sont en queue de classement parce que tout simplement, ils sont en espèce de phase de, enfin, ils étaient en phase de restructuration, de transition et puis de rattrapage de notre niveau de vie. Et donc il y a énormément de gens qui ont dû réinventer leur emploi, qui ont perdu leurs économies, pour qui le contexte de vie a complètement changé. Donc c'est pas du tout étonnant que pendant toute cette phase, tant qu'ils ne se seront pas complètement adaptés, ils sont moins heureux.
Du côté de la France, est-ce qu'il y a une évolution sur le sentiment de bonheur en France ? Parce que, on est une nation qui se plaint beaucoup, mais les Français, la plupart du temps, se déclarent heureux individuellement, mais collectivement, ils disent toujours que leur pays va très mal.
Ouais, exactement. Donc, en fait, nous, on mesure ça tous les trimestres avec l'Observatoire du bien-être, CEPREMAP, et notre enquête trimestrielle conjointe avec l'INSEE. Et donc, on voit que les Français, le bonheur fluctue au gré de Covid, confinement, déconfinement, etc. En ce moment, l'inflation, le niveau de vie, c'est la grande préoccupation, etc. Mais c'est vrai qu'on a introduit une question, justement, pour aborder ce dont vous parlez, qui est par rapport aux autres Français, est-ce que vous trouvez que vous êtes plus heureux ou moins heureux ? Effectivement, en moyenne, il y a 7 Français sur 10 qui pensent qu'ils vont mieux que les autres. Alors, ça fluctue aussi. Aujourd'hui, on est plutôt vers 6,3, donc 6 Français et demi, disons. Mais effectivement, ils ont chacun l'impression que, nous, ça va à peu près, mais le pays...
Qu'est-ce que ça va mal,
voilà. Et alors, voilà, au gré des... Quand ça va très mal, par exemple, là, les gens sont inquiets. Ils sont très inquiets pour les perspectives futures. Ils ont l'impression que la France, ça va aller mal. La prochaine génération va vivre beaucoup, très, très mal. Le mal-être français, et on le voit dans ces questions, il a vraiment un rapport avec les perspectives futures, les perspectives d'avenir. C'est quand on va mal, c'est parce qu'on se dit que la France, ça va aller plus mal. Ou alors, je ne sais pas si c'est parce que, mais ça veut dire aussi qu'on se dit que le pays, ça va aller plus mal. Et ça nous déprime.
On parlait de démographie tout à l'heure, 8 milliards d'habitants. Bon, la démographie, elle commence à stagner. On est à peu près à 1% de croissance mondiale. Certains continents continuent de croître plus vite, comme le continent africain, 2 à 3% de croissance annuelle. Mais est-ce que le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, c'est relié dans l'imaginaire des gens au sentiment de bonheur ?
Dans l'imaginaire, certainement. Alors, vivre avec des gens, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est un des facteurs dont on découvre que ça compte énormément. D'ailleurs, dans l'enquête sur le bonheur dans le monde dont on parle depuis tout à l'heure, avez-vous quelqu'un sur qui compter ? C'est la variable discriminante. Donc, vivre avec quelqu'un, avoir une famille, être entouré, c'est essentiel. Maintenant, avoir des enfants, franchement, dans les données, c'est pas trivial. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est pas évident, vous voulez
elle
dire.
Elle n'est pas là. La relation, c'est-à-dire que la corrélation qu'on attendait, étant donné tout le temps que ça prend, les sacrifices, les efforts, etc., d'avoir des enfants, en moyenne, il n'y a pas de relation, de corrélation avec le fait d'être heureux. Après, quand on regarde plus précisément, on voit que les gens qui ont des enfants dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas trop tôt, et avec les moyens de les élever, ça les rend quand même un peu plus heureux. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand on suit des enquêtes longitudinales, c'est-à-dire on suit des gens tout le temps, année après année, les gens qui auront des enfants... Par exemple, quand ils auront atteint 45 ans, ils auront eu des enfants. Eh bien, déjà à 20 ans, ils étaient plus heureux. Donc, les gens les plus heureux à la base, disons, ont plus de chances d'avoir des enfants. Et quand ils en ont, ça les rend un peu plus heureux, à condition que ça soit dans des bonnes conditions. Sinon, c'est le contraire.
Alors, on va entendre la voix des enfants tout à l'heure dans cette émission. Que signifie pour eux le bonheur ? Jean-Christophe Ribaud, dans votre enquête, vous questionnez les études, les sondages sur le bonheur dans les différents pays. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de votre documentaire, Le Business du Bonheur, un documentaire disponible sur le site de la chaîne arte.com.
Ce serait l'image du bonheur. Celle de parents encourageants et jamais en colère. De conjoints équilibrés et toujours authentiques. De voisins épanouis et avenants. De collègues positifs et ambitieux. Pour eux, chaque épreuve est l'occasion d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Le développement personnel serait la clé du bonheur contemporain. Cette image a une histoire. Elle a peu à peu imprégné notre culture. Les coachs la martèlent. Elle se décline désormais en slogans publicitaires, en techniques d'éducation et de management.
Accent the positive.
Et même en programmes politiques.
Let us make this the year when the positive defeats the negative.
Elle nous dit de chercher au fond de nous-mêmes les ressources pour affronter la vie et être heureux. Le développement personnel serait-il le visage d'une société accomplie où le bonheur serait enfin au cœur des préoccupations ? ou au contraire, le masque d'un syndrome dépressif, d'une société où l'optimisme devient une servitude.
Un documentaire disponible sur le site arte.tv. Jean-Christophe Ribaud, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de, bah d'abord de plonger dans ce monde où les gens ne sont pas heureux et sont dans une recherche éperdue de bonheur?
Bah, je pense que c'est vraiment le contraste entre un marché qui explosait, les rayons des bibliothèques, des bibliothèques et des librairies surtout, qui se remplissaient d'ouvrages pour être plus heureux, et ce constat d'enquête de plus en plus alarmante sur notamment essentiellement le milieu du travail de plus en plus dur, dû à la compétition économique. Donc c'est ce contraste-là qui m'a d'abord interrogé, avec son corollaire, c'est est-ce que la quête du bonheur personnel est compatible avec un bonheur collectif? Est-ce que mon bonheur, la recherche de mon bonheur personnel ne contribue pas d'une certaine manière au malheur des autres? Et je pense que c'est un peu l'angle sous lequel on a cherché à enquêter.
Ouais. On vit quand même dans un monde où toute pensée négative maintenant est un peu perçue comme une tare, hein, dans son caractère, alors que la haine sur Twitter est partout, donc ça peut sembler un peu paradoxal, et que nos sociétés sont surinformées et tournent un peu en boucle sur des infos qui ne sont pas du tout optimistes. Alors est-ce que ça contribue au fait que les gens sont de plus en plus anxieux et ont besoin de cette recherche éperdue du bonheur, le fait que cette société quelque part déraille aussi, indépendamment d'eux?
Oui, je pense que en fait, le succès du développement personnel, c'est de se dire que il y a une solution et que cette solution, elle est chez moi. Alors qu'à une heure où on ne croit plus beaucoup aux solutions politiques, et il faut bien voir qu'effectivement, sur le plan historique et social, l'essor du développement personnel s'est construit avec...
La fin des utopies,
finalement. La fin des croyances et la fin d'une pensée que le pouvoir politique pouvait changer les choses. Pour moi, c'est là où il y a sujet à inquiétude quelque part, c'est lorsque le développement personnel se substitue à une pensée politique, à un vivre ensemble, à une volonté de construire les choses ensemble.
3 milliards d'euros, c'est l'estimation du marché mondial du développement personnel. Comment on fait ce calcul sur une notion aussi fourre-tout quand même?
Oui, alors honnêtement, c'est effectivement une estimation. D'autres estimations donneront 15 milliards, ça dépend ce que vous mettez dedans. Mais disons que je pense que chacun de nous peut le constater dans nos rues, sur nos téléviseurs, sur les annonces, etc. L'argument du bonheur, être heureux, se développer soi-même, trouver son authenticité, ses ressources intérieures, ce sont des slogans qui fonctionnent à peu près dans toutes les sphères, que ce soit au niveau du marketing ou au niveau des activités de loisirs ou au niveau de l'entrepreneuriat, des valeurs qui deviennent omniprésentes.
Ouais, donc c'est un business comme un autre, le bonheur, dans un monde où tout est devenu marchand?
Ben justement, je pense que ce n'est pas anodin du tout et c'est là que ça mérite enquête. C'est qu'il y a une idéologie derrière. Ce qui m'a le plus intéressé, je dirais, c'est de remonter aux racines historiques de ce mouvement-là. Alors on voit qu'elle remonte à un libéralisme américain, à ces gens qui ont fondé l'Amérique blanche aujourd'hui. C'est un pays qui était pour eux à construire et où les seules ressources, c'était eux et la force des individus, avec ce mythe du self-made man, c'est-à-dire que en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui vont se donner la peine de réussir.
Parce qu'on peut pas compter sur les autres. Justement.
Parce qu'on peut pas compter sur les autres, on peut pas compter. Et même, je dirais, c'était des gens qui, bien qu'étant très ancrés dans la religion protestante, misaient sur l'humain et sur la richesse des individus et sur le fait que tout était en eux pour réussir. Alors, on voit bien effectivement quelque part la force de ce mythe, mais aussi ce qu'il peut y avoir d'idéologiquement très marqué derrière, c'est-à-dire que si vous réussissez, c'est grâce à vous. Si vous êtes en échec, c'est à cause de vous. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a une question politique qui est le fondement du libéralisme américain et qu'on peut questionner.
Ouais, y compris, par exemple, pour les personnes les plus pauvres, hein, qui en général ne vont pas très bien, et ça peut se comprendre parce qu'elles ont pas mal de problèmes à résoudre et elles ne sont pas forcément responsables de ces problèmes, Claudia Sénic.
Plusieurs choses. Bon, d'abord, il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre la recherche d'un bonheur personnel et la recherche d'un bonheur collectif. L'un peut passer par l'autre et vice-versa. D'ailleurs, dans ces fameuses enquêtes, là, on voit que... Enfin, nous, ce qui nous intéresse dans ce domaine de recherche, c'est pas de chercher des leçons pour de développement personnel. C'est de comprendre, dans les politiques publiques, dans les institutions, dans la gouvernance, qu'est-ce qui est favorable au fait que les gens se sentent bien ou pas. Est-ce que la démocratie locale, c'est bien? Est-ce que le fait de pouvoir s'exprimer, ça rend les gens plus heureux? On peut le montrer.
D'ailleurs, les pays d'Europe du Nord sont ceux qui sont les plus heureux et qui ont plutôt de vraies politiques sociales de solidarité, notamment.
Par exemple, dans cette enquête, la cohésion sociale, le sentiment de liberté, la perception de la corruption, tout ça, c'est des choses qui sont de nature et de dimension collective.
Ouais. L'Amérique, se situe comment sur le classement du bonheur international?
Pas mal, assez haut en général. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un peu paradoxal de critiquer la poursuite du bonheur ou du bien-être en ce moment en la mettant dans le même sac que le capitalisme ou le libéralisme, alors que justement, j'ai l'impression qu'en ce moment, on se dit, avec le réchauffement climatique, etc., il faudrait peut-être penser à autre chose que la croissance, c'est quelque chose qu'on entend depuis très 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 longtemps, et donc il faudrait peut-être mesurer et viser autre chose que juste le revenu par habitant. Et quoi d'autre? Quoi d'autre que le bien-être des populations, peu importe ce qu'on met derrière cette notion, quoi. Donc mesurer autre
chose. Avec sa famille, être avec ses amis, vivre des moments, mais on peut aussi l'interpréter comme un repli sur soi.
Pas forcément ça, mais en tout cas, le fait que si on veut mesurer autre chose que la matérialité marchande, pour prendre le discours qui est un peu derrière cette critique du bien-être, à ce moment-là, il faut y aller, quoi. On ne peut pas à la fois dire je rejette la croissance capitaliste et je ne veux pas mesurer autre chose.
Bon, on en discute bien sûr, bonheur collectif, bonheur individuel. Sommes-nous trop nombreux pour être heureux? On en discute, vous restez avec nous, on va poursuivre notre quête de vérité sur le bonheur. On partira pour l'Inde, à la recherche de la sérénité par le yoga, la méditation, un concept qui s'exporte extrêmement bien. Ça sera juste après le rappeur sénégalais J21.
My baby, how my want live my down life, can you yak feel like a fat jot? My baby, how my want feel my jump suffer the beast, jot and minis, do my nalo ya me, yeah. Y'all come on, I'll fight, do the league, I'll soon jam on the jeep, my baby. Jok my solo, I'll bend your dam, so I'll roll me ragal, so my people, learn my next song, I'll go eat them pa. Les paroles, les mots, c'est parce qu'ils savent que tu aimes ça. Y'all bring my cheap food, comme ça, c'est carré, tu jettes ça, faut me dire c'est du cheap, tout ça, my call being a ghetto. Que normal, my six. Come on, Nicki Minaj, skinny black boy, chocolate boy. So my tour dinner to go fit and get the musuta. Say do limo success, chocolate boy. Come on, walk the luta, me say so. Yo baby, pull job, loin the work, say for. Manda my load up, load Tesla. Some ex for Tesla. Yo bna my full net, but ever. Come on, mama, sisu, kiss me, lick it, beat me, kiss me, tick me, baby. Jack na leg, mag nyom, do jack na. Kiss la, toy na por sana. My baby. How my want live my down life, can you yak feel like a fat judge, my baby? How my want feel my jump suffer the beast, just a minute, man, I love ya, my yeah. Y'all come on, I don't fight, do the league, I lose, no jam, no jib, my baby. Jump on, I love her, you them. So I won't get a girl, some people. Cognate niggas, no, let me song. Gang, you keep niggas, you make it soul. So let me remind you the distance. They be talking to you, but they miss something. Your devil is for my level. No digga, no bugger, blue my don't little. New nigga, my town, baby, ding my digga. No, you bigger, so good, think it's a more hall, my chair, because I'm nigga, okay, yeah. Mais dans tes origines, ton côté frangine. Les autres sont en direct, je les mets en sourdine. Faisons le plan, lady, je suis plus que down, lady. Checking up on you, baby, every day, like I'm a die, leggy, leggy. I treat you better, real nigga. Handling your body like nobody did better. Hot chicks, wonder like hot boys, who doesn't give a fuck, let me explain. My baby, how my want live my down life, can you yak feel like a fat judge, my baby? How my want feel my jump suffer the beast, just a minute, do my nalo ya, my yeah. Y'all come on, I don't fight, do the league, I lose, no jam, no jib, my baby. Jump on, I love her, bring her down, so I won't get a girl, so my people.
8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Alors, c'est vrai qu'être voisin, c'est vrai que c'est bien, mais il y a aussi quand même des inconvénients. Ça peut déranger, ça peut empêcher de dormir et tout, mais il suffit juste d'avoir le bon voisinage, savoir comment discuter avec ses voisins pour éviter tout ce qui est négatif. Voilà.
Surtout en Afrique ici, les voisins, c'est le bruit et aussi la nuit. Les voisins, c'est du bruit.
Bon, je peux donner un exemple, hein, pour avoir vécu dans un pays maghrébin. Et je sais que le voisinage là-bas, surtout la nuit, c'est pas évident du tout. C'est-à-dire, ils peuvent se plaindre à n'importe quel moment, te taper le mur pour te dire que tu fais du bruit, par exemple, arrête de faire du bruit. Et ils n'aiment pas qu'on fasse la fête. La soirée, vraiment, ça les dérange, ils n'aiment pas ça du tout.
Non, on aime faire la fête la nuit, on aime faire le bruit. Limite, on aime déranger le voisin exprès, quoi.
Pour que le voisin se joigne à nous, en fait.
Huit milliards de voisins sur RFI, suite de notre semaine spéciale. Sommes-nous trop nombreux pour être heureux aujourd'hui ? Les voisins, les voisines, on aime tellement vous entendre sur tous les sujets de notre vie quotidienne. On évoque avec nos invités les différentes façons d'être heureuse qui participent au bonheur universel, les différences entre le bonheur individuel et le bonheur collectif. On l'entendait avec le témoignage de nos voisins à Abidjan, hein, sur le voisinage, ce que ça peut apporter comme nuisance, comme bonheur. On en discute avec vous, Jean-Christophe Ribaud. Vous êtes l'auteur d'un documentaire qui s'appelle « Le business du bonheur » sur Arte TV. Et Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être au Centre de la recherche économique et ses applications. On discute bien sûr aussi de cette échelle internationale du bonheur établie par les Nations Unies. Et nous partons à présent pour l'Inde, qui a développé de nombreuses techniques pour essayer de répondre aux angoisses personnelles, trouver la paix intérieure, depuis le yoga jusqu'aux formes diverses de méditation. Ces pratiques sont aujourd'hui redécouvertes en Inde et font le tour de la planète d'ailleurs. Sébastien Farcy. Bonjour Sébastien.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant en Inde. Alors il faut d'abord rappeler que ce pays n'est pas du tout un havre de calme, de paix et de sérénité.
Non, en effet, ouais. c'est un peu le cliché que j'aimerais démonter avant de commencer. Pour tous ceux qui ne sont pas allés en Inde, ne connaissent peut-être pas le pays et comprennent de quoi on parle, hein. Les Shiva, Mantra, autres Om Shanti, tout cela, c'est bien indien, mais l'Inde, eh bien, c'est pas vraiment un cours de yoga géant. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, bientôt le pays le plus peuplé du monde pour une densité 20 fois plus élevée que la France et un revenu par habitant 20 fois moins élevé. C'est donc plutôt un combat de tous les jours, un quotidien qui ressemble souvent plus à celui des pays africains qu'au Japon, tranquille et organisé. L'Inde, ce sont des villes qui ont dépassé depuis longtemps la taille du raisonnable avec leurs 20 à 30 millions d'habitants, comme ici à New Delhi, et où les plus modestes se battent donc chaque matin pour une place dans un train ou une ration alimentaire. Dans ce contexte, on ne ressent donc pas vraiment la paix intérieure et spirituelle tous les jours, mais plutôt une sorte d'agressivité. Un instinct de survie des Indiens entraîné par cette surpopulation.
Et malgré ce chaos, Sébastien, ou peut-être à cause de ce chaos, les pratiques spirituelles sont de plus en plus populaires.
Oui, tout à fait. Alors le yoga d'abord, hein, qui est pratiqué depuis plus de 2000 ans en Inde, il était jusqu'au début du XXe siècle réservé à une petite élite éduquée et de haute caste. Il faut dire que c'est un art compliqué, basé sur des écrits en sanskrit, seulement transmis alors par des gourous, ce qui est long et difficile. Et ce n'est qu'à partir vraiment des années 50 que le yoga devient plus accessible en Inde, plus attractif aussi, entre autres car les Occidentaux s'en saisissent et le simplifient. Et aujourd'hui, le yoga demeure toutefois une pratique urbaine de classe moyenne. On voit vraiment que la ville est stressante et les habitants sentent vraiment le besoin, eh bien, de l'utiliser, de reconnecter avec le yoga. Selon un sondage du Pew Research Center de 2019, plus d'un tiers des Indiens interrogés disent pratiquer le yoga, mais ils sont 56% parmi les diplômés d'université qui vivent généralement en ville. Depuis plusieurs années, le gouvernement nationaliste hindou se réapproprie cette magnifique pratique spirituelle et physique. Il essaye de le populariser en Inde et cela pousse les autres partis à suivre ce mouvement, à faire du yoga cet instrument politique. À New Delhi, par exemple, le gouvernement régional, tenu par l'opposition, vient ainsi de lancer des cours publics gratuits de yoga qui sont suivis pour l'instant par environ 17 000 personnes par jour.
Et la méditation est également largement pratiquée.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous parler de l'une des techniques les plus développées qui a connu une vraie renaissance depuis 50 ans. Cela s'appelle le Vipassana. C'est une technique qui a été développée par le Bouddha il y a 2500 ans, puis adaptée et popularisée par un Indien qui s'appelle MSN Goenka dans les années 70, selon des préceptes totalement laïques. Cela consiste à entraîner son cerveau à observer ses émotions et à lui apprendre à ne pas réagir, car tout est éphémère. Les moments malheureux, comme ceux joyeux, sont temporaires. Ce qu'il faut réussir à obtenir pour éviter les montagnes russes de la joie et de la dépression, c'est un équilibre, une stabilité émotionnelle. Cela s'appelle l'équanimité. J'ai personnellement suivi ces cours à deux reprises et je peux vous dire que c'est magique.
Ça vous a rendu heureux, Sébastien ?
Ah oui, tout à fait. Moi, ça m'a permis en tout cas de rester en Inde depuis 11 ans, de vivre cette vie de fou, de ce chaos ambiant et de maintenir cette équanimité.
Alors, comment c'est enseigné concrètement ?
Eh bien, par des sessions de 10 jours pendant lesquelles les élèves, dont moi donc, sont accueillis, nourris, logés gratuitement. L'une des bases de cet enseignement, en fait, c'est de ne pas parler, de rester en silence pendant 10 jours. Alors, ça peut paraître fou pour quelqu'un de radio comme moi, mais oui, ça aide énormément à vivre. Ce qu'il faut, c'est ne pas perturber son attention, donc pas de téléphone, pas de livre, de la concentration, de l'observation, une méditation intense pendant 10 heures par jour. Et en fait, c'est très populaire en Inde. Il y a 109 centres qui sont répartis dans tout le pays et qui offrent ces cours gratuits en continu pendant toute l'année et ils sont remplis. Cela fait plus d'une dizaine de milliers d'étudiants par mois quand même. Des politiciens aux chefs d'entreprise en passant par les simples travailleurs et retraités. Tout le monde se retrouve dans ces centres et cette technique de Vipassana est tellement populaire que des centres ont ouvert dans les quatre coins du monde aujourd'hui. Depuis le Madagascar au Mali en passant par la Bolivie ou la France, le Vipassana s'enseigne partout. C'est le nouveau cadeau de l'Inde au monde pour que chacun puisse se trouver son calme intérieur sur une planète de plus en plus bruyante.
Merci, merci à vous Sébastien Farcy, correspondant heureux de RFI. En Inde, étonnant tout de même, hein, Jean-Christophe Ribaud et Clonia Sénic, ce tableau que nous a brossé Sébastien Farcy, où le yoga est finalement, certes un business à l'étranger, mais instrumentalisé politiquement en Inde récemment, finalement, surprenant, non ?
Oui, moi, ces outils, on va dire, tous ces outils de méditation qui cherchent à mieux se connecter au monde... Je les regarde plutôt d'un œil bienveillant. J'ai l'impression que plus on est connecté à l'entourage, à ce qui se passe, à soi-même, effectivement, tout le monde a à en bénéficier. Ce que je regarde d'un œil plus critique, c'est lorsque ces techniques-là se substituent, et parfois se substituent volontairement, consciemment, à la compréhension du système dans lequel on vit. Et c'est particulièrement flagrant, je dirais, dans le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, où de plus en plus ces techniques sont mises en œuvre et se substituent à une réflexion sur la manière dont fonctionne l'entreprise et ce à quoi contribue l'entreprise dans le monde, par exemple.
Et où, dans ces cas-là, effectivement, ces techniques de bien-être visent plutôt surtout à renforcer la productivité de l'entreprise.
Alors, il y a un lien très direct.
Peut-être pas un but en soi pour le bonheur, je ne sais pas. Clodia Sénic.
En fait, en ce moment, dans l'entreprise, la grande question, c'est le sens. Au-delà du fait d'aller bien soi-même, et le yoga, effectivement, aide beaucoup. D'ailleurs, on peut recommander le livre d'Emmanuel Carrère, Yoga, qui est sorti l'an dernier et qui décrit exactement...
un succès fou. Hein.
Extraordinaire, comme toujours. Mais dans l'entreprise aujourd'hui, enfin, on n'entend parler que de ça. Enfin, la grande démotivation, le grand désengagement, la grande démission, enfin, le fait que les gens ne veulent plus, en fait, juste travailler comme ça en échange d'un salaire et veulent que leur entreprise contribue à affronter le problème du réchauffement climatique, etc. Donc,
alors, on arrive...
Moi, je ne vois pas ça comme des choses qui sont substituts. En fait, on vit en tant qu'individu, c'est vrai, nous sommes dans une société individualiste, on se voit comme des individus qui devons faire des choses pour nous-mêmes en tant qu'individus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses pour la société et qu'on n'est pas dans un projet social.
Bon, vous avez des visions différentes du bonheur, je crois qu'on l'a bien compris. En tout cas, on va quitter le monde des adultes, si vous le voulez bien, on arrive au terme de cette émission dans quelques instants. On donne la parole aux enfants sur le bonheur.
8 milliards de voisins.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Entre nous, là, entre les voisins. Hein ?
Ouais, c'est ça.
On donne régulièrement la parole aux enfants chez 8 milliards de voisins et nous leur proposons à chaque fois de discuter autour de sujets vastes, comme l'amour, comme l'avenir, comme la peur et aujourd'hui, le bonheur. Ils sont 6 enfants de Cotonou, au Bénin, autour du micro de Charlie Dupio. Ils ont entre 9 et 10 ans. Il y a 2 garçons, Darel, Ivan, 4 filles, Inès, Anaël, Lucille, Maëva, je donne leur nom parce que c'est important. Ils sont tous élèves dans la même classe de l'école Le Petit Poussé.
RFI.
Le monde des enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
La dernière fois que j'ai été heureuse, c'est le jour de mon anniversaire.
Vous avez fait quoi pour ton anniversaire ?
Ah là, on m'a fait une grande surprise. Je dormais et on m'a réveillée. Le salon de ma maison était décoré et j'étais très surprise par le cadeau. Il y avait des jouets, des livres, des chaussures. C'était pour mes 9 ans.
Moi, la dernière fois que j'ai été heureuse, c'est lorsque j'étais allée dans un restaurant avec ma famille. C'était trop cool, surtout quand on est avec notre mère. Elle est la plus gentille au monde.
La dernière fois que moi j'ai été heureuse, c'est quand je suis venue à la bibliothèque avec ma maman et il y avait plein de livres et j'étais très contente parce que j'aime lire.
Ça veut dire quoi alors le bonheur pour vous?
Le bonheur, ça veut dire d'être joyeux, rigoler.
Pour moi, le bonheur, c'est de sourire, d'être content.
Et de partager des bons moments avec ceux qu'on aime.
Moi, dans la semaine, le jour que je préfère le plus, c'est le vendredi. Parce qu'avec mes frères et ma maman, on va au supermarché. Là, on achète beaucoup de choses pour la semaine prochaine. Quand on va au rayon des chocolats, des fois, je demande à ma mère de m'en acheter, mais des fois, elle dit non. Quand on va bien travailler, elle pourra nous acheter.
Je suis plus heureuse à midi parce que je revois mes grands-parents. Je ne suis pas à la cantine, donc je repars chez mes grands-parents parce qu'ils sont proches de l'école. Ils me donnent un peu de nourriture parce que j'ai un peu faim à midi. Et ils me parlent un peu de tout. On parle de comment je vais bien travailler à l'école, comment je pourrais devenir architecte parce que je veux devenir architecte. Et je repars un peu déçue parce que je voudrais bien rester un peu plus avec eux parce que je suis un peu plus heureuse avec eux.
Ce que j'aime faire, c'est me la couler douce avec mes amis.
Moi, c'est le week-end parce que je peux faire des gâteaux et des biscuits. J'aime cuisiner des gâteaux au chocolat et des cookies. Je cuisine seule. Par contre, pour allumer le four, ma mère m'aide. Ça me plaît de cuisiner et de manger parce que je suis gourmande. Je ressens de la joie. J'ai comme des frissons. C'est une sensation agréable.
Comme notre maman nous fait plaisir, je me demande des fois qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces choses.
Et aussi, je ne peux m'empêcher de sourire et de rigoler pour un rire.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de danser.
C'est vrai, tu danses de joie?
Oui. Je danse, je me lâche.
Et la dernière fois que tu as dansé comme ça, de joie, c'était pourquoi? À quel moment?
Lorsque j'ai bien récité ma leçon.
Ton maître t'a félicité? Et donc le soir, qu'est-ce que tu as fait quand tu es rentrée?
J'ai premièrement dit à mes parents. Après, j'ai commencé par danser un peu. J'ai dansé avec eux. Ils aiment bien danser.
Moi, j'aime chanter des chansons de Dadju et de Nino de Kims.
Est-ce que t'es un bon chanteur?
Oui, je suis un bon chanteur.
Et alors, la dernière fois que tu as chanté de joie, c'était quand? C'était pour quelle nouvelle?
Ma sœur, elle a 16 ans. Elle en première. Elle m'a montré la feuille. Boutique, qu'elle a eu 20, suivi en maths. J'étais joyeux pour elle. J'étais content et j'ai chanté. C'est une autre chanson de Dadju aussi. J'étais qu'il me faut, toi la présenter ailleurs. M'aimeras-tu qu'on serait fauché quand moi l'ancien va. Soit moi elle vira, soit ma carte dirait en off. C'est quelque chose qu'on dira, papa peur de faire foirer les projets. Elle rappait avec moi.
Et à part chanter, tu fais quoi d'autre quand tu es heureux?
Parfois danser, moi tout le monde me connaît pour la danse, j'aime trop danser.
Moi je cours et je saute partout quand je suis heureuse. Je crie de joie.
Moi j'aime beaucoup faire des câlins aux gens qui me sont très proches.
Est-ce que vous pensez que vous serez heureux quand vous serez adulte?
Moi je pense que c'est plus difficile d'être heureux quand on est adulte parce que tu dois t'occuper des enfants, tu dois payer les factures d'eau, d'électricité.
Il faut payer beaucoup de choses. Il faut le payer, les cahiers, les livres, les bics, les crayons, les gommes, tous ces trucs-là pour aller à l'école.
Tu dois aller au travail tous les jours, tu dois revenir et tu dois faire à manger aux enfants. Et après, tu dois les mettre au lit. Si c'est un bébé, tu dois toujours changer sa couche et que la nuit, il va crier. Tu vas venir à chaque fois. Ça peut être énervant.
Moi, c'est difficile, hein. D'être adulte parce qu'il y aura un peu de problèmes dans le couple à chaque fois. Donc.
Notre mère, des fois, elle se plaint parce que tout le temps, c'est elle qui fait les choses à la maison. Et chaque fois, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça.
Moi, je pense que si on devrait se marier quand on sera grand, nous les filles, il faut trouver le bon partenaire pour pouvoir avoir une belle vie.
Il y a aussi des avantages quand tu es adulte. Par exemple, personne ne te crie dessus, personne ne te donne d'ordre et tu peux faire ce que tu veux.
Est-ce que tu arriveras toujours à surmonter des moments de tristesse?
Moi, ça ne me stresse pas parce que je sais qu'il y aura toujours des gens sur qui compter dans les moments difficiles. Un jour, j'ai demandé à mon père s'il préfère être enfant ou adulte. Il a dit qu'il préfère être adulte.
Voilà, le bonheur selon des enfants à Cotonou, au Bénin, Jean-Christophe Ribaud. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette fraîcheur ?
Moi, ça m'inspire que ce qui me rend heureux, c'est de voir les autres heureux.
Et pour vous, Claudia Sénic ?
C'est vrai que c'est vraiment très réjouissant. On voit très bien l'opposition dans ce qu'ils disent entre tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui rend joyeux, tout ce qui rend heureux, et puis tout ce qu'au contraire, on doit faire. Et finalement, on a l'impression que le bonheur, c'est quand ce dont on a envie est beaucoup plus important que ce qu'on doit faire par devoir.
Voilà, et puis c'est possible de réaliser.
Un monde de désir et d'envie.
Merci à tous les deux, Jean-Christophe Ribaud. Votre documentaire est toujours en ligne, Le Business du Bonheur, disponible sur Arte TV. Merci à vous, Claudia Sénic, professeure à la Sorbonne, à l'École d'économie de Paris, et directrice de l'Observatoire du bien-être au Centre pour la recherche économique et ses applications. On quitte ce monde du bonheur et ses interrogations tout de même aussi avec un artiste qu'on aime bien chez 8 milliards de voisins, Asaf Avidan. Et ensuite, ce sera le journal sur RFI. Wake up from your sleep, take a deep breath and let it all out. Over and over again. Tear away your dreams by the seams and throw them about. Voisins, c'est la fin de cette semaine spéciale qui a accueilli de nombreux invités, vos messages d'auditeurs aussi, les correspondants de RFI et toute l'équipe de 8 milliards qui a réalisé cette semaine spéciale. Zeynaba Diallo, Damien Roucou, Divine Berthoud, Romain Dubrac. 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.